Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Cette fois, ce devait être une femme, et ce devait être le tour de l'Europe de l'Est. Ce sera vraisemblablement un homme et un Portugais. Tractations et marchandages ne sont pas terminés, mais Antonio Guterres, qui a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat aux réfugiés, a de fortes chances, semble-t-il, de devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Le mandat de Ban Ki-moon se terminera à la fin de l'année. Sous la pression des ONG, la sélection du successeur a été soumise pour la première fois à un processus plus transparent, avec plusieurs auditions successives pour juger des mérites des différents candidats. Mardi prochain, lors d'un 6e tour, les membres du Conseil de sécurité devraient décider de leur choix. Mais quels en sont les critères? Quel peut être le consensus entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité au moment où on voit à quel point la tragédie syrienne illustre le blocage de l'institution? Quel bilan peut-on brosser des 2 derniers mandats de Ban Ki-moon face au chaos du monde? Comment son successeur, quel qu'il soit, peut-il répondre aux multiples défis qui l'attendent? C'est ce que nous allons explorer grâce à vous, Bernard Millet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien secrétaire général adjoint chargé du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU et vous présidez l'Association française pour les Nations Unies. Guillaume Devin, merci d'être là. Vous êtes professeur des universités en sciences politiques et vous êtes rattaché aux séries de Sciences Po. Au téléphone de New York, Alexandra Novoselov, qui est chercheuse invitée au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, et au téléphone de Genève, le professeur Oul Mohamedou, qui est directeur adjoint du Geneva Center for Security Policy, comme on dit en franglais, et professeur associé au Graduate Institute à Genève. Bernard Millet, je commence avec vous. Est-ce que mardi prochain, il y aura une fumée blanche qui va s'élever du gratte-ciel des Nations Unies à New York?
Alors, il peut y avoir une fumée blanche ou une fumée noire. Puisque pour la première fois, il va y avoir une distinction dans la couleur des bulletins qui seront déposés les uns par les membres permanents du Conseil de sécurité et les autres par les 10 autres membres.
Les membres provisoires du Conseil, donc.
Voilà, ceux qui font des rotations annuelles. Et si, parmi les bulletins colorés des membres du Conseil de sécurité, il y a un vote négatif, ça veut dire que c'est un veto potentiel, même s'il n'est pas encore assuré jusqu'à la fin du processus, mais c'est un veto potentiel sur chacun des candidats qui se trouvera avec un bulletin coloré dans la case « non ».
Alors, on en est... Il y a donc eu déjà 5 tours,
oui.
Ce qui veut dire qu'un certain nombre de candidates, puisqu'il y a eu plusieurs femmes cette fois-ci, et de candidats ont été éliminés. Et je crois qu'au dernier vote, j'ai le pointage sous les yeux, c'est bien le Portugais, donc M. Guterres, qui a eu 12 voix d'encouragement, comme on dit, 2 contre et 1 abstention. Et celui qui le suit, M. Jeremić, qui est de quelle nationalité?
Serbe.
Il a eu 8 encouragements. 6 contre et 1 abstention. Donc il semble quand même que le Portugais se détache, comme on dit au vélo.
Alors, je veux dire que sur la majorité des membres, il a une image tout à fait positive. Je remarque que lors du premier sondage qui a été exercé, il n'avait 0 voix contre lui. Et que depuis, il en a constamment 2. D'où viennent ces 2 voix? Ce sera la surprise du 5 octobre.
Et quel est votre pari sur ces 2 voix?
Je n'ai pas la moindre idée, possibilité.
C'est là où on reconnaît l'ancien diplomate, évidemment. Il faut souligner donc qu'à partir du 1er octobre, c'est bien la Russie qui prend la présidence du Conseil de sécurité.
Pour un mois.
Ensuite, ce sont les États-Unis.
Oui.
Est-ce que cette alternance peut peser dans à la fois le choix et le calendrier de ce choix?
À la marge, oui, pas fondamentalement. Je veux dire que si on sent qu'il y a un consensus qui se fait chez les P5, ça peut intervenir.
Le P5, il faut le rappeler,
les membres permanents du Conseil de sécurité. S'il y a des tensions, des rivalités politiques, et la Syrie est aujourd'hui dans le coup, il peut y avoir le désir ou non d'accorder des satisfactions de principe politique à tel ou tel État. Est-ce que on souhaitera que ce soit sous la Russie ou sous les États-Unis ou ultérieurement au mois de décembre? Tout est possible.
Mais il y a quand même il y a un ultimatum qui est la fin du mandat de Ban Ki-moon à la fin décembre.
Oui, on a toujours dit qu'on voulait essayer d'avoir une décision avant la fin octobre. Je rappelle, puisque moi j'en ai été l'une des conséquences, que pour le vote qui a permis à Kofi Annan de devenir secrétaire général, le vote a eu lieu à la mi-décembre, puisqu'il y a eu de grandes difficultés auparavant sur la réélection ou non de Boutros-Ghali.
Qui était donc l'Égyptien. Donc ça, c'était, je crois, en 1995.
16.
96. Alexandra Novoselov, on vous rejoint. Vous êtes à New York. Donc, qu'est-ce que l'on dit à New York? On sait que cette nouvelle procédure a été imposée, en quelque sorte, par des organisations non gouvernementales qui ont dit, bon, assez de ces tractations de couloir, il faut qu'on sache à qui on a affaire.
Oui, tout à fait. Ça, c'était l'une des pressions qui a été majeure pour ce processus. Et puis aussi, c'est quand même un bilan en demi-teinte du secrétaire général, du présent secrétaire général, qui a conduit à ça, en fait, à cette situation. Ce qu'on dit, enfin, donc, il y a bien entendu cette transparence qui est tout à fait bienvenue. Maintenant, elle n'empêche pas, bien entendu, les tractations de continuer sur le fond, puisque le Conseil de sécurité est maître de ses décisions, de ses procédures. Mais quand même, ça a permis au public, aux médias, en général, de voir quels étaient ces candidats et qu'est-ce qu'ils valaient, en quelque sorte.
Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'opérations de lobbying, enfin des opérations de séduction, de conviction.
Ah oui, tout
enfin,
à fait.
Comme des campagnes électorales, en quelque sorte.
Tout à fait. L'ensemble des candidats est allé, voir les gouvernants des membres permanents du Conseil de sécurité. Et puis certains ont été, par exemple, voir des opérations de maintien de la paix pour s'informer. Donc ils ont fait chacun a fait une sorte de tour du monde pour défendre sa candidature.
Alors, il y a toujours des surprises, puisqu'on a vu que la Bulgarie, tout à coup, a sorti une deuxième candidate de son chapeau.
Tout à fait.
Alors qu'il y a Madame Boukova, qu'on connaît bien en France parce qu'elle dirige l'UNESCO.
Kristalina Georgieva, mais c'est vrai que Madame Boukova n'avait pas fait une très, très grande prestation lors des auditions. Et donc, pour avoir une chance ultime d'avoir une femme secrétaire générale et qu'elle soit ressortissante de l'Europe de l'Est, les Bulgares ont à la dernière heure, comme ça, sorti du chapeau, si je puis dire, Madame Georgieva,
elle est la vice-présidente de la Commission européenne. Elle est à Bruxelles.
Tout à fait, elle est considérée comme extrêmement compétente, ayant à la fois une expérience dans une grande organisation comme l'Union européenne, mais également à la Banque mondiale, et donc c'est tout à fait des expériences tout à fait à mettre au profit d'une organisation comme les Nations Unies. Elle sera auditionnée lundi à 11h, heure de New York. Et donc là, ça peut aussi, en fonction de l'audition qu'elle va faire, l'impression qu'elle va donner, ça peut quand même changer la donne. Et on peut avoir mardi que les cartes soient un peu rebattues et que finalement on aille vers un autre vote.
Alors que oui, donc pour elle, ce serait donc sa première audition.
Tout à fait.
Alors que pour les autres, et notamment pour Antonio Gutiérrez, donc, ce serait la sixième. Alors Antonio Gutiérrez a 67 ans, c'est un ancien Premier ministre du Portugal, ancien président de l'Internationale socialiste. Il a donc dirigé, il a fait deux mandats à la tête du HCR depuis 2005. Professeur Ould Mohamadou, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone de Genève. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Centre Genevois pour les politiques de sécurité. Vous êtes un fin observateur de l'univers onusien tel qu'il évolue à Genève, où il faut rappeler que siègent beaucoup des institutions qui dépendent des Nations Unies de New York. Quel est selon vous le bilan de M. Gutiérrez à la tête du HCR?
Je crois que M. Gutiérrez bénéficie d'abord d'une petite soixantaine d'années d'un des organismes des Nations Unies qui est peut-être, disons, parmi les plus respectés, qui arrive à tenir tout de même une certaine qualité de travail toutes ces décennies. Pour lui, objectivement, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas un mauvais candidat. On peut même dire que c'est un candidat qui peut se targuer d'une certaine compétence. Il est reconnu pour une compétence dans la gestion de ces questions. D'aucuns disent aussi que c'est un homme de dialogue. Il a une grosse équipe à gérer, presque 10 000 personnes, 9 300 staff répartis de par le monde. Et il a lui-même, au départ, disons aussi, une expérience politique. Mais la question qui se pose par rapport à cette candidature, c'est de savoir comment quelqu'un qui vient d'une organisation qui est axé essentiellement sur l'opérationnel, c'est son grand défi, 123 pays, je disais, peut-il se prêter à un exercice éminemment politique comme celui qui est en cours et au-delà, lorsqu'il faudra gérer des dossiers qui dépassent simplement la question, elle est certainement particulièrement complexe aujourd'hui plus que jamais, que celle des réfugiés. Je pense qu'il est quand même connu pour avoir décentralisé le travail du HCR, c'était important, et du coup il a fait des gains de quelques 13 à 15 millions de dollars en décentralisant les opérations sur Budapest, ouais, et d'autres pays. Il a réduit le staff de 30% certes, mais en même temps que les activités augmentaient, alors ça c'est le grand problème onusien, et je crois qu'on voit quand même une compréhension conceptuelle des questions assez intéressante. Il a récemment parlé de cette transformation des conflits, de ces conflits complexes dans lesquels son organisation doit opérer, et aussi bien entendu de ce changement de paradigme, et je le cite, concernant la question des réfugiés. C'est important de garder à l'esprit la magnitude de ce qui s'est joué ces deux, trois dernières années dans la question des réfugiés. Le gros dossier aujourd'hui, 15 conflits de par le monde, un certain nombre, presque 60 millions de réfugiés ou de déplacés internes de par le monde. Et ça, je crois qu'il se présente à la table avec une gestion de ce dossier parmi les plus complexes qui est très respectable.
Guillaume Devin, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des organisations internationales et donc de l'ONU. On sait à quel point cette organisation, bon, elle a son âge. Elle a été fondée en 1945. Il y avait quand même beaucoup moins d'États membres. Il y en a aujourd'hui combien ? 193. On sort là tout juste de la 71e Assemblée générale avec le rituel, les discours. C'était le dernier discours de Barack Obama, le dernier discours de Barack Obama, sûrement de François Hollande, en tout cas pour ce mandat. Le dernier grand discours de Ban Ki-moon devant cette Assemblée générale. Et comme d'habitude, on a pu lire ici ou là l'avalanche de critiques habituelles sur ce mastodonte qui serait tellement inefficace. Vous la défendez, cette institution?
Non, je suis pas là pour défendre une institution, mais d'abord permettez-moi de revenir un peu sur le processus de sélection du secrétaire, oui, général. Ce processus récapitule un peu la nature ambiguë, ambivalente de l'Organisation des Nations Unies. C'est à la fois un instrument entre les États membres, et notamment entre les États membres les plus puissants, et en même temps un acteur politique qui dispose d'une certaine marge d'autonomie. Et donc, le secrétaire général, il se trouve dans cette situation. À la fois, c'est un secrétaire des États membres et soumis aux plus puissants, obligé de plaire aux plus puissants, en tout cas de ne pas les froisser. Et en même temps, c'est un secrétaire, par la Charte des Nations Unies, qui a une certaine marge d'autonomie, à la fois pour organiser la machine interne et également pour attirer l'attention du Conseil de sécurité sur tout ce qui porte atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Donc c'est un poste très important et les Nations Unies aujourd'hui, dont les attentes sont considérables par rapport à tout un tas de conflits qui ne sont pas réglés, par rapport en fait à l'absence de leadership mondial des grandes puissances. Personne ne veut prendre véritablement le lead, comme on dit. Les Nations Unies sont dans une grande attente et le secrétaire général est certainement quelqu'un qui devra être une personnalité énergique avec pas mal de charisme et d'objectifs.
Mais alors, voilà. Avant d'en venir au profil idéal du prochain, quel est l'état de cette organisation aujourd'hui ? Parce que, encore une fois, comme toutes les organisations de ce genre, et il y a d'ailleurs un vrai parallèle entre les critiques, même si elles sont de nature différente, mais il y a un vrai parallèle entre les critiques que l'on fait à l'Union européenne et à l'ONU, mais il est vrai que c'est forcément un mastodonte bureaucratique avec des processus de décision qui, dans certains recoins, sont lourds, contraignants et parfois mystérieux.
Alors, les vents de la critique contre les Nations Unies sont inépuisables. Bon, mais je ne suis pas là pour faire une défense et une illustration des Nations Unies,
mais
simplement de remettre un peu en perspective cette organisation. C'est une organisation qui est manifestement sous-dimensionnée par rapport aux défis considérables qu'on lui demande de régler. Alors, il faut donner quelques chiffres tout de même, parce que les fantasmes les plus grands circulent. Bon, les opérations de maintien de la paix, Alexandra Novoselov pourra en reparler de manière plus compétente que moi, c'est un budget qui fait 7 milliards et demi de dollars. 7 milliards et demi de dollars, il faut que les auditeurs sachent que c'est même pas le budget de la ville de Paris. Pour être présent sur tous les conflits où aucune armée ne veut aller.
Bon,
la bureaucratie, c'est 40 000 personnes autour du secrétariat général. Si on y ajoute les entités séparées, les programmes, les fonds, c'est peut-être 75 000, 80 000 personnes. Ça représente quoi, ça? 80 000 personnes, c'est à peu près 1,5% de la fonction publique française. Pour gérer les affaires du monde.
Et cette mise en proportion est très utile. Pardon, je vous interromps. Le problème est de savoir, est-ce que ça marche ? Je me souviens d'avoir lu avec stupéfaction, dans le New York Times, il y a eu une lettre ouverte d'un ancien secrétaire général adjoint, me semble-t-il, qui était en charge de l'une des régions difficiles du monde, et un Scandinave, je crois, et qui, noir sur blanc, a dit, voilà, ça ne peut plus fonctionner comme ça, parce que pour nous qui sommes sur le terrain, on entend ça dans toutes les organisations de ce genre, dépendre de gens qui sont si loin, qui ne comprennent pas, qui mettent 3 jours avec 36 tampons pour prendre une décision, qu'est-ce que l'on peut faire ? Est-ce que cela fait aussi partie de la mission du prochain secrétaire général ?
Je crois que sur les opérations de maintien de la paix, beaucoup d'avancées ont été faites. Les opérations de maintien de la paix se sont professionnalisées. L'ONU, aujourd'hui, au moment où on en parle, n'a rien à voir avec l'ONU d'il y a 20 ans, qui n'a rien à voir avec l'ONU d'il y a 40 ans. Il y a eu quand même des améliorations. Maintenant que vous me parliez de dysfonctionnement, quelle est l'organisation, à commencer par peut-être France Culture, où il n'y a pas...
Non, ça c'est une radio absolument parfaite.
Bon, non, mais
ça, nous ne laisserons
voyez,
pas.
Du point de vue du sociologue, il y a toujours des dysfonctionnements dans une organisation. Le problème est de savoir si on va plutôt dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Et là, il faudrait ouvrir les dossiers techniques les uns après les autres. Mais pour répondre à votre question, qui s'occuperait des 60 millions de déplacés, dont 20 millions de réfugiés s'il n'y avait pas le HCR ? Qui s'occuperait des sous-alimentés s'il n'y avait pas le programme alimentaire mondial ? Qui s'occuperait des enfants qui souffrent de la faim et de la malnutrition et des problèmes médicaux s'il n'y avait pas l'UNICEF, etc., etc.
Quand, dans vos remarques tout à l'heure, vous disiez, voilà, il faut un leader, mais en même temps, il faut que ce soit un homme ou une femme de consensus, puisque toute l'ambiguïté, encore une fois, c'est que les États membres veulent quelqu'un qui gère et qui incarne l'institution, et en même temps, il ne faut pas non plus une personnalité qui bouscule trop ouvertement leurs intérêts, qui sont par nature contradictoires.
C'est la grande difficulté, l'équation, être un leader dynamique avec des objectifs ambitieux et en même temps ne pas froisser et être un homme ou une femme de compromis. Mais de ce point de vue, je dirais qu'on avance dans la bonne direction. Souvenez-vous de secrétaires généraux tout de même, comme le birman U Thant, on parle de Ban Ki-moon comme un homme terne. Mais U Thant n'a-t-il pas été terne? On n'a même pas évoqué la guerre du Vietnam, de toute la période de son mandat. Bon, il y a eu le flamboyant à Mark Scholl, c'est entendu.
Et avec une enquête qui continue sur sa disparition, au Congo. Donc
suspecte.
Ça, c'était quand ça? C'était en 62, me oui. semble-t-il. Et on n'a toujours pas. Et l'Assemblée générale, je ne sais pas ce qu'il en est, mais l'Assemblée générale, la dernière, devait décider de la poursuite ou non de l'enquête sur les circonstances de sa disparition au-dessus du Congo qui, à l'époque, était encore belge. Alors, pourquoi cette fois-ci ne va-t-on pas voir une femme, à moins que la candidate bulgare qui sera entendue lundi va créer la surprise? Alors, Eric Scholl, que c'était programmé. Il y avait une pression intense et bien évidemment légitime pour que la parité s'affiche aussi au sommet de l'ONU, et on a l'impression que ce ne sera pas le cas.
Et en tout cas, c'est bien ce que déplore le New York Times. Jamais depuis 70 ans, une femme n'a occupé le poste de secrétaire général. Et il y a fort à parier pour que cette situation perdure, écrit le quotidien new-yorkais. Et pourtant, c'est vrai, on avait toutes les raisons d'y croire, parce que au départ, parmi les 12 candidats alignés initialement dans la course pour succéder à Ban Ki-moon, figuraient pas moins de 6 femmes, avec pour la plupart des CV très impressionnants, ministre ou ancienne ministre des Affaires étrangères, patronne de grandes agences onusiennes, ou même ex-chef de gouvernement. Mais apparemment, et sans que l'on comprenne vraiment pourquoi écrit ou raconte le New York Times, aucune d'entre elles ne fait l'affaire. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier scrutin indicatif, vous le disiez tout à l'heure, tenu en début de semaine, donc au sein du Conseil de sécurité. La première femme ne se classe qu'au 4e rang. Alors, faute d'explication officielle ou même d'indication sur qui a voté quoi, les observateurs se contentent d'hypothèses. On dit par exemple, raconte le New York Times, que dans le cas des 2 candidates les plus réputées, la Bulgare Irina Bokova, qui est donc l'actuelle directrice générale de l'UNESCO, eh bien elle serait perçue comme pro-russe, tandis que Susana Malcora, elle, la ministre des Affaires étrangères argentine, et qui était aussi chef de cabinet de Ban Ki-moon, elle serait trop pro-américaine. Depuis ce scrutin, on l'a dit, il y a cette nouvelle candidate bulgare, mais là aussi, ses chances sont minces, selon le quotidien britannique The Guardian, qui a publié récemment une enquête détaillant les coups fourrés et les coulisses de cette compétition. Eh bien, selon le journal, cette candidate pourrait essuyer un veto russe. Après tout, elle est membre de la Commission européenne qui est responsable des sanctions contre Moscou, rappelle le journal.
Et donc l'emprise masculine sur l'ONU, évidemment, va demeurer.
Oui, et d'ailleurs, elle existe déjà depuis longtemps, selon le site Open Democracy, qui a étudié le fonctionnement de l'organisation. Le constat est évident, malgré plus de 20 ans d'engagement dans le domaine de la parité, les femmes ne représentent au sein des Nations Unies que 15% du corps des ambassadeurs et 22% des postes seniors. Autant dire que les hommes sont donc ultra-majoritaires. Le site Open Democracy rappelle qu'ils continuent de dominer les scrutins indicatifs, c'est-à-dire ceux qui votent sont les hommes. Et lui aussi, ce site conclut qu'il y a de moins en moins de chances de voir une femme élue. Faut-il espérer des changements, même si c'est un homme qui succède à Ban Ki-moon? On parlait donc des chances d'Antonio Guterres. Eh bien, lui, s'il est élu, a déjà annoncé une feuille de route pour instaurer la parité à tous les niveaux. Mais à l'ONU, on sait bien que ce type d'engagement, surtout dans une campagne électorale, eh bien c'est un peu comme promettre la paix dans le monde.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Bernard Millet, vous avez passé plusieurs années à l'ONU. Vous avez été le premier à occuper la fonction clé de secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix, c'est une fonction qui est traditionnellement détenue par la France. Parce que ce qui est très curieux aussi dans ce système, c'est que les grands pays, enfin les pays membres du Conseil de sécurité, ont leur bastion.
Alors, cette tradition ne remonte qu'à 20 ans, c'est-à-dire au moment où j'ai occupé le poste. Auparavant, c'était plutôt les Britanniques qui s'intéressaient à ces fonctions, soit affaires politiques, soit ce qu'on appelait affaires spéciales. Donc, il y a eu, au moment, puisque ça, c'est quelque chose qui peut se produire dans les mois qui viennent, avec l'élection d'un nouveau secrétaire général, les cartes vont être rebattues au sein du système, sur tous les hauts postes au sein des Nations Unies, mais en tenant compte également de ce que sont les postes qui vont être ouverts à candidature dans les institutions spécialisées du système des Nations Unies. L'Organisation Mondiale de la Santé, Philippe Douste-Blazy est candidat, mais vous allez avoir l'UNESCO aussi l'année prochaine, qui va être, vous avez le Fonds des Nations Unies sur les activités en matière de population, le PNUD qu'Hélène Clark dirige jusqu'à présent.
L'ancien Premier ministre néo-zélandais. Voilà. Les candidates.
Voilà, l'UNICEF, le PAM, traditionnellement, eux, depuis le début, occupés par des Américains, comme la Banque mondiale. Donc, il va y avoir un jeu qui va s'établir sur le choix, l'élection et les négociations avec le futur secrétaire général sur qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu prends. Donc, les Français occupent ce poste. Je pense que mes successeurs ont été excellents depuis 20 ans, donc
sûrement,
il doit y avoir
c'est vrai,
une raison tout à fait logique à ça, mais il va y avoir là un certain nombre d'appétits, et ils existent déjà. Je pense que les Anglais qui ont perdu le département des affaires politiques au profit des Américains doivent avoir des tentations, mais également, dit-on aujourd'hui, les Chinois, qui commencent à entrer dans le maintien de la paix et qui veulent avoir une visibilité plus forte au sein des Nations Unies. Et les Chinois vont perdre un poste clé qui est celui de Margaret Chan à l'OMS, qui dirigeait l'OMS. Donc il va y avoir un jeu de négociation, de discussion entre les États membres permanents du Conseil de sécurité, les grands États qui émergents, qui aussi ont leur point, le futur secrétaire général, pour savoir quel poste les uns et les autres vont occuper. Et là encore, puisque vous évoquiez la question de Antonio Guterres disant « je veux avoir des femmes », ces pays-là peuvent avoir des candidats pour chacun de ces postes qui ne seront pas nécessairement des femmes.
Oui, donc ça complique. S'ils ne sont pas des femmes, ce sont des hommes, évidemment. Mais on voit bien qu'il y a évidemment une question de prestige pour tous les postes clés que vous évoquez. Jusqu'à quel point, au-delà du prestige, est-ce que cela entraîne de la part du représentant du pays qui exerce ses fonctions, en principe il ne représente plus son pays, c'est comme à la Commission de Bruxelles, en principe il est chargé de l'intérêt collectif.
Non, mais ça c'est une évidence. Dès que vous entrez dans ce type de fonction, vous n'avez plus qu'une seule autorité supérieure, qui est le secrétaire général, et qu'un cadre de référence, qui est la Charte des Nations Unies. Vous oubliez le reste. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une manière de penser, des choix, une éducation, une culture qui fait que, dans les relations que vous avez avec vos collaborateurs, dans les relations que vous avez avec les États membres, vous avez une petite couleur. Mais vous n'avez que vos convictions et votre cadre juridique qui doit s'imposer. Et je pense d'ailleurs que si les Français ont pu exceller dans ce poste au maintien de la paix, c'est parce que, on critique souvent les hauts fonctionnaires français, la notion d'intérêt général et de service de l'État, là du service des Nations Unies, est quelque chose qui est profondément ancré dans les consciences et les manières de travailler.
Il y a eu aussi plusieurs scandales qui ont affecté l'image des Nations Unies à cause du comportement des casques bleus sur plusieurs théâtres d'opérations, des viols surtout, prévarications en tout genre. Des enquêtes ont été lancées. Oui. Jusqu'à quel point est-ce que cela a pu miner, au-delà des problèmes d'image, mais miner le fonctionnement même de ce secteur.
Ça mine le fonctionnement même du système, parce que vous avez plus de difficultés à trouver des troupes pour aller sur le terrain, qui soient suffisamment formées, qui soient claires, puisque dès qu'une action de ce type est intervenue, vous rapatriez à la fois les présumés coupables ou même un bataillon entier. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. La seule difficulté et les critiques qui sont faites aux Nations Unies, c'est que les Nations Unies n'ont pas de pouvoir de sanction. Il appartient aux seuls États dont sont originaires ces casques bleus de juger leurs ressortissants, de fixer la nature des sanctions. Ceci étant, ceci ne vaut pas que pour les Nations Unies. Rappelez-vous cet avion de l'OTAN qui a sectionné un câble dans une station de ski américaine faisant des morts. Il n'a jamais pu être jugé en Italie, mais seulement les Américains ont dit « il y a immunité juridique sur le territoire italien, ça ne peut se passer qu'aux États-Unis ». Donc je pense que dans la plupart des cas, on est confronté à ce type de situation.
Donc vous expliquez, et je crois que cela mérite quelques éclaircissements, ces casques bleus, ce sont des troupes qui sont fournies en général par des pays pauvres, qui trouvent ainsi une rentrée de devises, en quelque sorte, mais des gens qui ne sont pas formés pour ça, et qui ont eux-mêmes des habitudes de vie. On a vu, par exemple, en Haïti, la responsabilité des troupes de l'ONU dans, hélas, l'épidémie de choléra qui s'est ajoutée au tremblement de terre. Là aussi, ça fait partie des...
Si les quatre principaux pays contributeurs de troupes sont le Bangladesh, le Pakistan, le Rwanda et l'Éthiopie. Donc, il est évident que les moyens de formation de ces troupes sont relativement limités, que des efforts sont naturellement faits. C'est l'une des préoccupations permanentes des patrons du maintien de la paix au sein du système des Nations Unies. Mais le chemin est encore long pour avoir des troupes totalement professionnalisées.
Alexandra Novoselo, on vous retrouve à New York. Je rappelle que vous êtes chercheur invité au Centre pour la coopération internationale à NYU. J'imagine que vous arpentez, c'est votre boulot, les couloirs des Nations Unies. Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a une véritable attente à l'idée d'un changement de règne? Qu'il y a de l'inquiétude, de l'espoir?
Oui, c'est là on attend vraiment la fin du règne de Ban Ki-moon. Il y a une vraie attente et beaucoup d'espoir pour que le nouveau secrétaire général ait un leadership qui soit un peu plus ferme. Donc ça, c'est les gens sont assez déprimés en fait en ce moment dans les couloirs des Nations Unies. Je crois qu'il y a les structures ont beaucoup pâti du leadership de Ban Ki-moon, je suis obligée de le dire. Donc voilà, les gens attendent le 1er janvier 2017. Je voulais aussi revenir sur un point sur les troupes de maintien de la paix. Je crois que ces troupes, quand on parle du Pakistan, de l'Inde, ce sont des troupes qui sont totalement aguerries, qui se font encore la guerre d'ailleurs dans certaines parties de leur pays. Mais je crois que le vrai problème des opérations de maintien de la paix, c'est que on envoie ces soldats dans des situations totalement impossibles et que dans des situations impossibles loin de leur pays, le soldat bangladéchi ou pakistanais, comme le soldat d'ailleurs suédois, allemand ou autre, n'a pas envie de mourir pour Goma, pour Juba ou pour Bamako. Je crois que c'est un élément important de la réponse sur les difficultés du maintien de la paix.
Oui, il faut rappeler que ce sont toujours des forces d'interposition. Ce ne sont pas des forces
Malheureusement pas.
Sauf au Congo. Enfin, ça dépend des théâtres d'opération.
Ce sont sont de plus en plus des forces qui se retrouvent dans des guerres actives, alors que par le passé, il y avait c'était des forces qui venaient après la signature d'accords de paix, d'accords de cessez-le-feu en tout cas. Aujourd'hui, ce sont des forces, enfin, c'est le cas depuis le début des années 90, hein. Ça avait été le cas aussi au Congo dans les années 60. Ce sont des forces qui se retrouvent au milieu de guerres civiles, qui regardez ce qui se passe au Sud-Soudan, où il y a eu, où la guerre est en train de reprendre.
Absolument.
Et donc, forcément, quand ces troupes ne sont pas équipées pour faire la guerre au sens où la guerre s'entend, c'est-à-dire aller contre un ennemi.
Et on en revient, Guillaume Devin, au problème de la décision politique et à la manière dont le secrétaire général de cette institution, qui reste la seule institution clé de l'ordre international tel qu'il a été imaginé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout dépend quand même beaucoup de la personnalité du secrétaire général.
Alors, les opérations de maintien de la paix, elles aussi, elles révèlent bien cette nature ambiguë de l'action des Nations Unies, c'est-à-dire à la fois des problèmes techniques, hein, comme Alexandra vient d'en parler. Il y a la nature des troupes, leur adaptation au combat sur le terrain, la logistique, etc. Mais fondamentalement, en amont, une question politique. On connaît la recette d'un bon maintien de la paix. Trois conditions. Un mandat clair, une mission précise et des moyens suffisants. Et ça, le secrétaire général, il peut attirer l'attention du Conseil de sécurité là-dessus, en disant « Attention, ici, il y a une situation d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Conseil de sécurité, prenez vos responsabilités », comme Ban Ki-moon l'a dit encore de manière dramatique pour ce qui se passe quand même à Alep.
Et il a dit hier que les bombardements des hôpitaux, c'était des crimes contre l'humanité, d'ailleurs correspond à la définition de ces crimes.
Mais une fois que cela a été dit, la définition du mandat clair, la définition d'une mission précise et la définition de moyens suffisants, ça c'est le Conseil de sécurité. Donc, les États doivent prendre aussi leurs responsabilités. Et quand on dit les États,
c'est toujours la formule.
Non, mais attendez. Quand on dit les États, justement, faut pas être abstrait. Les États, c'est nous. Hein, c'est nos représentants, c'est nos diplomates. Que font nos diplomates?
Nos diplomates font de leur mieux, mais à partir du moment où M. Poutine d'un côté et son collègue chinois de l'autre, même si la Chine, semble-t-il, de temps en temps se désolidarise de Moscou quand il s'agit de bloquer le Conseil de sécurité, voilà, c'est-à-dire, ce ne sont pas diplomates qui...
C'est un débat qui pourrait être ouvert. Je veux dire, la diplomatie française n'a pas peut-être pris la bonne orientation il y a déjà quelques années, depuis 2011, en faisant de l'éviction de Bachar el-Assad, par exemple, un préalable, ce qui a bloqué très certainement certains processus diplomatiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que la position française est beaucoup plus souple. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? Est-ce que les États-Unis n'ont pas non plus perdu du temps? Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc les États, c'est pas abstrait. Les États, ce sont nos diplomates et ce sont nos citoyens, nos sociétés qui doivent se mobiliser.
Certes, mais c'est aussi un consensus, et Bernard Mier ne va pas me contredire, c'est aussi un consensus qui est forgé entre des puissances dont le pouvoir réel est quand même beaucoup plus inégal qu'il ne pouvait l'être au lendemain de la guerre, et il est évident que c'est une partie qui se joue maintenant davantage à trois, c'est-à-dire la Russie, la Chine et les États-Unis.
Mais c'est évident, Guillaume Devin a raison, et on le sait quand on dirige le maintien de la paix, sur les trois conditions. Ceci étant le mandat clair, il est fixé par un conseil de sécurité dans lequel il y a des points de vue différents. Les missions, elles sont précises pour autant que le compromis n'est pas ambigu et que le texte n'est pas ambigu sur lequel on travaille. Et sur les moyens adaptés, on sait fort bien que la tentation, c'est que ça coûte le moins cher possible, et non pas que ce soit adapté, etc. Donc il faut vivre avec ça, et quelque part, moi je l'ai vécu au quotidien, les Nations Unies font des miracles par rapport aux moyens dont ils disposent.
Et des moyens qui sont toujours insuffisants, et encore une fois, ça a été évidemment l'expérience en particulier au niveau du haut commissariat aux réfugiés. Professeur Oul Mohamedou, quel est selon vous le bilan de Ban Ki-moon qui est pratiquement en fin de mandat?
Je crois que c'est regrettable qu'on voit aujourd'hui, dans cette deuxième décennie déjà, du 21e siècle, qui est marquée quand même par des défis extrêmement complexes, nouveaux. On parlait des réfugiés, mais il y a également la question du terrorisme transnational, il y a la question climatique, la question du développement de manière générale. Or, a-t-on vu des grands chantiers mis en place ces 15 dernières années? Non. On se rappelle comment les années 90 nous avaient donné quand même des concepts tels le peace building, la consolidation de la paix ou la sécurité humaine.
Kofi Annan.
Mais autour de Kofi Annan et par la suite, effectivement, nous avons eu un moment dans lequel les Nations Unies donnaient l'impression step up, comme on dit, pour faire face à ces questions et les traiter. Or, aujourd'hui, on a eu une forme d'accompagnement. Alors, à sa décharge, les questions sont urgentes, complexes. Les grandes nations reprennent la main sur la réelle politique. Le dossier syrien est un exemple parfait. Mais je crois que la question, à mon sens, c'est est-ce que les Nations Unies sont-ils aujourd'hui encore capables d'inspirer une nouvelle génération, comme on l'a vu par le passé? On a besoin, en réalité, aujourd'hui, plus que jamais, d'un secrétaire général qui soit un leader. Et ça veut dire, effectivement, être capable de transcender le quotidien politique. Alors, la machine onusienne, dans sa superbe que nous connaissons, ou dans son aspect problématique, mais également quelqu'un qui soit un répondant à ses pouvoirs, à ses grandes nations, et ses puissances régionales aussi montantes. Hein. On voit tous ces conflits qui vont un peu partout à travers le monde, quelqu'un qui puisse présenter une capacité à parler au nom de la communauté internationale. Il restera tout de même the embodiment, comme on dit, la personnification de ce monde. Et c'est une des dimensions qui sera intéressante de voir si elle va être présente.
Guillaume Devin, on a l'impression, à entendre le professeur Oul Mohamedou, que il faut en quelque sorte un surhomme. Je n'ose pas dire une surfemme, d'ailleurs bizarrement l'expression n'existe pas. Mais donc un surhomme.
Moi je crois qu'à chaque période, ces objectifs plus ou moins ambitieux, les années 90 constituent une parenthèse enchantée, hein, où tout semblait possible. Et de ce point de vue, Kofi Annan, personnalité flamboyante, en a profité aussi. Je pense que la période a été beaucoup plus dure pour Ban Ki-moon. Et c'est un homme, bon, je ne le connais pas personnellement, tout le monde dit que c'est un homme terne, effectivement, c'est ce qui semble se révéler. Mais tout de même, il a réussi à achever les objectifs du millénaire pour le développement et à passer avec ce nouveau grand chantier des objectifs du développement durable. Il a accompagné tout de même de manière assez énergique les grands problèmes sur l'environnement international et il a féminisé, et là on pourrait ouvrir le dossier, mais il a féminisé l'organisation, hein, plus que probablement aucun autre secrétaire général avant lui, et c'est une dynamique d'ailleurs qui se poursuivra, parce que la tendance est engagée. Donc, voilà, ne tirons pas sur les ambulances.
Non mais c'est pas une ambulance, c'est un diplomate sud-coréen de grande expérience.
Évidemment, c'est un peu décevant.
Qui a eu deux mandats. Est-ce qu'on peut dire aussi que la malchance de Ban Ki-moon, indépendamment du calendrier des conflits internationaux, ça a été en fait de siéger à New York au moment où Vladimir Poutine, de mandat en mandat, Poutine est au pouvoir je crois depuis 16 ans maintenant, n'a eu de cesse que d'essayer de créer un nouvel ordre international qui rende selon lui à la Russie la place qu'elle mérite. Bernard Millet.
Oui, mais c'est pas uniquement le fait de Poutine, les pays émergents eux-mêmes qui attendent une réforme du Conseil de sécurité depuis des décennies frappent à la porte en disant et nous.
Donc c'est pas que les émergents, l'Allemagne
voilà,
par
bien
exemple.
Bien sûr, l'Allemagne. Donc on voit bien que globalement il faut que l'ordre géopolitique de 45 est aujourd'hui dépassé, qu'il faut trouver les équilibres. On peut pas changer la charte, qui est un élément essentiel, parce que ce serait une discussion impossible. Mais il faut retrouver une forme de contrat social entre les grands pays issue de 45, et les pays émergents ou les pays qui aujourd'hui comptent sur la scène internationale pour rebâtir une volonté politique. Le problème, au-delà du secrétaire général, sa personnalité est importante. Kofi Annan avait un charisme fou, suffisait de se balader n'importe où sur le globe avec lui, il était adulé par les foules, applaudi dans la rue. Bon, on n'a jamais connu ça avant ou après. Mais la réalité, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique et un accord entre les grands pays pour trouver des solutions? Tant qu'il n'y a pas ça, même l'homme le plus merveilleux qui soit aura des limites dans son action.
Mais donc ça veut dire que à partir du 1er janvier prochain, quelle que soit la personnalité qui va donc éventuellement sortir du prochain tour de table mardi ou plus tard, si comme vous l'avez expliqué tous les trois avec Alexandra Novoselov à New York, les marchandages et les tractations se poursuivent, l'agenda du prochain secrétaire général des Nations Unies est pratiquement déjà plombé en quelque sorte, Guillaume Devin.
Non, il n'est pas plombé. Je pense que si c'est une personnalité énergique, il y a des marges de manœuvre. Le secrétaire général a des marges de manœuvre. D'abord pour essayer de rationaliser l'organisation, la rendre plus efficace et plus efficiente. Bon, ça c'est difficile, c'est un gros dossier parce que les pays du Sud souvent freinent et ils voient une façon pour les pays du Nord de reprendre en main l'organisation qu'ils ne contrôlent plus politiquement, notamment à l'Assemblée générale. Bon, il y a un gros chantier de ce point de vue, et du point de vue politique, je pense qu'il faut trouver des formules qui permettent de mieux associer les grands pays. Bon, de ce point de vue, on peut pas rentrer ici dans le détail, mais le Conseil de sécurité travaille d'une manière très différente aujourd'hui qu'il ne travaillait il y a 20 ans. Il est plus ouvert, beaucoup plus de pays sont associés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réinvestir des instances des Nations Unies qui ont eu tendance à péricliter? Moi, je pense que nos responsables politiques devraient donner plus d'importance à l'Assemblée générale des Nations Unies et plus d'importance au Conseil économique et social.
Alexandra Novoselov à New York, est-ce que dans les instituts de recherche, dans les think tanks, et Dieu sait s'il y en a à New York et ailleurs, est-ce que vous connaissez des projets, des schémas de réorganisation, de réorientation des Nations Unies qui vous paraissent à vous, vous en êtes la spécialiste, intéressants?
Ben, par exemple, je suis en train d'écrire un rapport sur la restructuration du secrétariat dans les domaines de la paix et de la sécurité, donc ce qui montre que ce sujet est clairement sur la table.
Et l'idée force, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait changer prioritairement?
Il y a toute une structure. Alors après, on rentre un peu dans des détails, mais il y a toute une structure. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup considèrent que les Nations Unies travaillent trop en silo, comme on dit ici, de manière on n'arrive pas à donner une réponse globale à une crise. Par exemple, le réflexe c'est toujours d'envoyer plus de soldats, plus de casques bleus sur le terrain, comme on l'a vu avec la dernière crise au Sud-Soudan. Or, peut-être que il faut porter l'attention plus sur des processus politiques qui sont forcément plus complexes, plus long à engager, mais qui sont sans doute plus efficaces sur le long terme. Je crois que donc il y a toute une réflexion là-dessus sur ce qu'on a appelé le spectre des opérations de paix, c'est-à-dire que on n'aille pas tout de suite envoyer des soldats, mais qu'on travaille plus en amont, qu'on accentue plus l'effort sur la prévention des conflits. Je crois que le problème, c'est qu'il faut qu'on réalise, c'est-à-dire on, ça veut dire nos gouvernants, nous-mêmes, citoyens, qu'on réalise que sortir un pays de la guerre, le remettre sur pied, mettre un État en état de fonctionnement, ça prend énormément de temps, ça prend des générations, et que souvent les réponses que fait le Conseil de sécurité, qui est un organe qui représente les États membres, et souvent se fait de sont des réponses de court terme. Et donc il faudrait changer un peu de focale d'une certaine manière, et accepter le fait que si on s'engage pour un pays, on s'engage sur une durée assez longue. Et ça. C'est difficile pour le moment à concevoir, mais je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller.
Bernard Millet, ces opérations de maintien de la paix, on l'a vu sur plusieurs théâtres. Il y a eu l'ex-Yougoslavie, où il y a eu quelques succès. Au Moyen-Orient, c'est une toute autre, hélas, un désastre. On l'a vu sur des conflits plus localisés.
Je rappelle qu'il n'y a pas d'opération de maintien de la paix Nations Unies au Moyen-Orient, sauf les vieilles missions, Liban et plateau du Golan, qui sont toujours là.
Mais néanmoins, ce sur quoi vient d'insister Alexandra Novoselov, c'est bien cette idée qu'il y a une opération qui peut être décidée en urgence quand il y a un consensus politique à un moment, mais après, tout ce qui est ce qu'on appelle en franglais le peace building, le nation building, là, les recettes, il n'y en a pas. Et donc, il faut que le consensus politique dont vous parliez tout à l'heure soit effectivement à moyen et long terme, sinon tout cela se disloque.
Mais ces discussions existent depuis très longtemps, hein, du early warning, alerte précoce, au peacemaking, construction de la paix, au peacekeeping, maintien de la paix, peacebuilding, construction de la paix après
l'émission. Le nombre de colloques sur ces sujets.
Le nombre de colloques est infernal et on connaît les recettes. Comme toujours, c'est ensuite les moyens financiers dont on dispose et la capacité aussi, souvent ça dans le maintien de la paix, on est confronté à ça, à des populations qui se sont entre-déchirées de se réconcilier. Il y a parfois des succès, il y a aussi des tensions et des haines qui sont ancrées dans les mémoires et qui sont difficiles à surmonter. Ça aussi, c'est des choses. Mais les moyens sont très, très importants.
Un petit tour de piste, puisqu'on arrive presque à la fin de cette émission. Guillaume Devin, imaginez que vous êtes nommé secrétaire général des Nations Unies et vous devez commencer le 1er janvier 2017.
C'est une bonne nouvelle.
Quelle serait votre première décision ?
Je ne pense pas que le secrétaire général ait à prendre des décisions, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Quelle serait votre priorité ?
La priorité, c'est évidemment le dossier syrien. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler entre gens de bonne compagnie pendant que des souffrances absolument terribles se déroulent et que nos sociétés, nos États, nos diplomates restent paralysés autour de la table en fer à cheval du Conseil de sécurité. C'est intolérable. Donc oui, ma priorité. Bon, mais enfin, je n'ai pas beaucoup d'intérêt moi dans cette affaire-là. Ce que je dirais simplement, peut-être en tant que citoyen, là, je retire ma casquette de chercheur, c'est que Ban Ki-moon, c'est peut-être une de ses dernières déclarations, disait il faut 20 milliards probablement de dollars pour répondre aux défis humanitaires aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. 20 milliards de dollars. C'est une grosse somme, hein, puisque je vous l'ai dit, le budget des opérations de la paix, qui est un budget beaucoup plus important que le budget ordinaire, n'est que de 7 milliards et demi. Mais 20 milliards de dollars, c'est quoi ? C'est 1% des dépenses d'armement de cette année. Alors que les citoyens, que les gouvernements, que nos diplomates réfléchissent à ça. Où sont les priorités ? Vendre des armes ou répondre aux défis humanitaires ?
Bernard Millet, votre priorité, vos priorités ?
Alors, je veux dire, la paix, la sécurité, les drames humanitaires ou les crises et souffrances des personnes sont naturellement ce qui va immédiatement happer le secrétaire général. Mais il y a les autres grands enjeux. Je veux dire que on est aujourd'hui face à des défis monumentaux migration, réfugiés, développement, commerce, une finance totalement incontrôlée, les questions énergétiques et de climat, l'eau, tout ça sont des enjeux phénoménaux qui aujourd'hui commence à être un petit peu traité. Vous avez les objectifs du développement durable, la COP21 qu'évoquait Guillaume Devinre tout à l'heure, mais on se rend compte qu'il faut voir comment articuler tout ça. Je veux dire qu'il n'y a plus que jamais besoin d'une gouvernance mondiale, alors que les opinions publiques vont vers une rétractation nationale qui est une illusion absolue pour régler les problèmes. Et en même temps, dans la galaxie des Nations Unies et des États, il y a besoin de mettre dans la cohérence, dans les actions qui seront conduites, les missions à mettre en œuvre, les moyens à mobiliser pour réussir le pari du développement, le pari climatique et essayer de remettre de l'ordre dans la finance internationale. Ça, aujourd'hui, on n'a pas les outils. Hein. Il y a des institutions qui fonctionnent. On voit bien que les pays occidentaux ont eu le sentiment, l'arrogance de dire dans un G5, puis après un G7, puis un G8, puis un G12, puis maintenant G20, en nous rencontrant entre nous, on va régler les problèmes. Ils n'ont pas réglé ces problèmes et tout reste à faire.
Tout reste à faire et donc on verra en 2017 un nouveau secrétaire général des Nations Unies, un nouveau président des États-Unis, un nouveau président français, nouveau ou pas, mais un président français, éventuellement un nouveau chancelier, en tout cas des élections générales aussi en Allemagne. Et donc voilà un certain nombre d'acteurs clés de la communauté internationale qui vont devoir rebattre les cartes. Et encore une fois, les deux seuls dont on peut imaginer qu'ils seront là, bien évidemment, ce sont Monsieur Poutine et Monsieur Xi Jinping. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous, Bernard Millet. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du département des opérations de maintien de la paix, et vous présidez l'AFNU, l'Association française pour les Nations Unies. Guillaume Devin, professeur des universités, rattaché aux séries, vous avez publié « Les organisations internationales », c'est chez Armand Collin, et dirigé un ouvrage collectif « Méthode de recherche en relations internationales » aux presses de Sciences Po cette année. Elle était avec nous de New York par téléphone. Merci à vous, Alexandra Novoselov, chercheur invité à NYU. Vous avez dirigé un ouvrage intitulé « Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance » aux éditions CNRS en 2016. Avec nous aussi de Genève, le professeur Oul Mohamedou, directeur adjoint du Centre Genevois pour les études de sécurité, professeur associé aussi au Graduate Institute à Genève. Vous avez publié à l'Armatan en 2011 et une seconde édition vient d'être mise à jour, un ouvrage intitulé « Contre-croisade, le 11 septembre et le retournement du monde ». Éric Scholl, le prochain numéro de Courrier international que vous dirigez ?
Et bien sûr, la Chine qui investit le monde, la Chine qui est présente partout dans le monde et la façon dont ces investissements massifs font peur ou suscitent méfiance et un peu partout, que ce soit en Occident mais aussi dans les pays en développement.
Merci Éric. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Édouard Rubinstein. Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, s'empressera de publier sur notre site toute la bibliographie nécessaire pour approfondir nos connaissances sur ce sujet. Et comme chaque samedi, voici Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.